Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en bonne santé. Voilà, bah écoutez, on va faire un premier essai de cours en audio. Donc j'espère que ça marchera et si ça se passe bien, je vous propose qu'on renouvelle ça régulièrement. Bah écoutez, oui là, dans un premier temps, je voulais vraiment vous féliciter pour le travail que vous avez réussi à faire en dépit de la situation compliquée aujourd'hui de confinement et parfois compliquée pour vous aussi personnellement, j'imagine. Donc merci à ceux qui et celles qui ont pu le faire même en amont de l'horaire du cours prévu donc de mardi dernier. Donc je pensais à Cinzia et Nathan. Merci à ceux qui ont pu le faire et celles qui ont pu le faire au moment même, quasiment dans la matinée. Ou un peu plus tard dans la journée. Voilà, bah, grosso modo, vous êtes quand même nombreux et nombreuses à l'avoir fait, donc c'est très bien. Pour ceux qui et celles qui n'ont pas encore pu le faire, c'est pas trop tard. Voilà, j'accepte encore tout à fait vos travaux, vos dissertations. Donc n'hésitez pas, hein, ce sera compté comment dire, à plein de toute façon, hein, comme je vous l'ai indiqué. Donc évidemment, j'ai bien compris que c'était un mode de travail un peu contraignant que je vous avais proposé pour cette première semaine. Mais bon, l'idée c'était vraiment de vous, comme je vous l'ai dit dans les mails déjà, c'était vraiment enfin, de vous contraindre un tout petit peu pour vous mettre voilà, au travail, que vous décrochiez pas dès le départ. On peut avoir le sentiment qu'on n'a plus qu'on est un peu en vacances ou qu'on est pris par plein d'autres choses et que émotionnellement c'est compliqué. Donc c'était un peu pour barrer la voie à ça et vous permettre de rester concentré. Alors, comme je vous ai dit aussi, on va trouver maintenant des solutions un peu plus souples et on va inventer un mode de fonctionnement de toute façon. Donc là, ce cours audio, c'est un petit peu l'idée d'ailleurs, hein, pour essayer d'ouvrir une autre manière d'être en relation ensemble. Alors, je vous ai, comme je vous l'ai dit, je vous ai transmis un support par mail, hein, sous la forme de 5 pages. Donc, j'espère que vous avez tous et toutes reçu ce texte et que vous avez pu y accéder facilement. Parfois, il faut un peu l'agrandir parce qu'il est écrit petit de toute façon, même dans le document papier que j'ai. Donc, c'est normal qu'il vous semble tout petit. Il faut vraiment l'agrandir. Mais normalement, il est tout à fait lisible. Donc, comme je vous le disais sur le mail que je vous ai envoyé ce matin, ma proposition, donc, c'est que vous fassiez une lecture cursive de ce document de 5 pages, sans forcément chercher à tout comprendre, mais simplement pour en prendre connaissance. Dans un premier temps, de façon à ce qu'ensuite, ce que vous êtes en train d'écouter, le cours audio que je vous propose, bien, puisse servir d'éclairage. Et après, vous pourrez refaire une lecture, évidemment, de ce document. Je pense que ça permet d'avoir un mode un peu plus interactif de fonctionnement et j'espère que ça va marcher. Donc, comme vous l'avez vu, il s'agit d'un article de dictionnaire. Donc, ce dictionnaire, je l'ai indiqué, c'est le vocabulaire européen des philosophies. Donc c'est un texte, un gros volume, hein, qui court sur plus de, là je l'ai sous les yeux, de 1500 pages. Donc c'est vraiment un énorme travail collectif qui a été réalisé sur beaucoup d'années par des centaines et des centaines de contributeurs qui ont rédigé des articles. Dans l'idée était vraiment d'avoir des entrées de notions pour explorer leur difficulté, enfin la difficulté qu'on a à traduire certaines notions. Donc c'est pour ça que dans l'article, vous avez pu remarquer qu'il y a un certain nombre de références justement à des langues, à la façon dont le terme représentation, en l'occurrence notamment, est traduit dans d'autres langues. Et beaucoup de réflexions sur les difficultés de traduire, à quoi ça correspond. L'ancrage dans la langue, du coup, est vraiment prioritaire. Donc, je trouve que c'est une voie d'entrée de réflexion philosophique qui est vraiment intéressante de façon générale, voilà, de situer vraiment le concept dans la langue. Hein. Comme vous savez, c'est une question qui, moi, m'intéresse beaucoup. Enfin, je trouve que les concepts, ils sont jamais hors sol, ils sont toujours ancrés, incarnés, enracinés quelque part, et ils ont une sémantique qui procède également de cet ancrage à la fois culturel et linguistique, et donc du coup aussi du vécu même du concept. Donc c'est une approche que j'aime beaucoup. Donc l'éditrice Barbara Cassin est quelqu'un donc qui a été vraiment qui a joué un rôle majeur dans l'organisation de l'ensemble du volume. Donc c'est un gros travail qu'elle a mené pendant des années. Simplement pour la situer, pour lui donner un peu, enfin montrer un peu quelle est sa posture. Elle a été, vous le savez peut-être, elle a été reconnue par l'Académie française en 2018, donc très récemment. Et c'est la première femme philosophe, en fait, qui a été reçue à l'Académie française. Bon, on peut très bien être célèbre et très bon sans avoir été à l'Académie française, hein, c'est pas forcément un signe de reconnaissance majeure, mais en tout cas c'est disons que c'est une distinction qui est intéressante à noter, étant donné que c'est la première femme philosophe qui est maintenant à l'Académie française, sachant que la première femme romancière, Marguerite Yourcenar, a été élue en 1980. Donc bon, entre-temps il y a eu d'autres femmes, mais pas en philosophie. Simplement pour la situer. Et c'est quelqu'un qui vient de la phénoménologie, qui a beaucoup travaillé à partir de la référence à Heidegger de façon générale, et Merleau-Ponty aussi. Donc initialement, c'est vraiment son parcours. Voilà, donc ça c'est pour vous présenter un peu le volume dans son ensemble. Ensuite, l'article en particulier donc, que je vous ai proposé de lire, donc l'article Représentation, a été rédigé par quelqu'un qui s'appelle Jérôme Dokic. Et donc c'est quelqu'un qui est actuellement en charge de cours, hein, qui enseigne. C'est à la fois un chercheur et un enseignant. Et il est basé en fait à l'école pratique des hautes études, à l'EHESS, boulevard Raspail, à Paris. Parallèlement aussi, il est rattaché en recherche à l'Institut Jean Nicot, qui est situé à l'école normale supérieure. Et sa spécialité, c'est nommé ainsi sur son site, enfin sur sa page, vous irez voir si vous voulez. Sa spécialité, c'est philosophie cognitive. Donc ça situe un peu déjà son propos. On va voir aussi là, du coup, l'orientation de l'article à partir de là. Pour le situer plus précisément, il a fait une thèse à l'université de Genève en Suisse sous la direction de Kevin Mulligan, qui est un Américain très connu pour ses travaux en sciences cognitives, en philosophie de l'esprit, et qui a une approche qu'on appelle réductionniste en fait, parce qu'il est ou éliminativiste, parce qu'il a tendance à considérer que la conscience, eh bien, ou l'esprit, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de connexions neuronales. Donc c'est en sens que c'est réducteur. Et c'est sa position philosophique majeure. Il a fait un passage, donc Jérôme Dokic, à l'université de Rouen, donc ça nous intéresse aussi, juste après sa thèse, avant d'être nommé, donc d'être recruté à Paris. Donc voilà, il a un petit lien avec Rouen, hein, c'est intéressant aussi à avoir en tête. Moi je l'ai rencontré une fois, c'est vrai que c'est quelqu'un de très sympathique par ailleurs, et voilà. Parmi ces publications, pour le situer également, vous pouvez noter des ouvrages qui pourraient vous intéresser, hein, qui s'intitule L'esprit en mouvement, essai sur la dynamique cognitive, qui est paru en 2001, et Qu'est-ce que la perception, qui est paru chez Vrin en 2004 et qui a été republié, je pense, en 2009. Globalement, son champ d'investigation, c'est les sciences cognitives et la philosophie de l'esprit. Mais il n'est pas, comme certains peuvent l'être dans ce champ, il n'est pas du tout hostile à la phénoménologie. Il y a d'ailleurs des thèmes d'intérêt qui sont très, très connexes, en résonance ou parallèles finalement à la phénoménologie, comme la perception, la mémoire, l'imagination, l'affect. Mais il les aborde, c'est ça évidemment son orientation philosophique, il les aborde d'un point de vue qui est le point de vue de la philosophie de l'esprit. Donc en fait, il mène un travail qui est d'une certaine manière un travail en miroir de ce que serait une approche phénoménologique de ces actes de conscience, hein, que sont la perception, la mémoire, l'imagination, l'affect. Donc ça singularise un peu sa perspective et je trouve que ça le rend particulièrement intéressant pour nous, dans la mesure où, évidemment, en résonance ou en relation avec le volume dont vous avez pu prendre connaissance déjà à travers les articles, donc l'enquête sur les représentations mentales, donc qu'on a présenté avec Franck Varenne à la librairie Colbert, bah vous avez vu qu'en fait, on est vraiment au croisement dans beaucoup de ces articles entre phénoménologie et philosophie de l'esprit, sciences cognitives. Donc, d'une certaine manière, Jérôme Dokic aurait très bien pu contribuer d'ailleurs à ce volume, il aurait eu tout à fait sa place. Et en tout état de cause, finalement, sa perspective philosophique est tout à fait compatible, ou en tout cas peut être vraiment mise en relation, discutée, reliée à un certain nombre d'approches issues de la phénoménologie. Donc, on verra comment lui-même se situe et présente son lien ou voilà, sa relation avec la phénoménologie depuis son approche. Donc ici à propos du thème donc de la représentation. Alors j'en viens maintenant donc à l'article proprement dit, puisque finalement c'est ça qui va nous occuper pour cette séquence de cours. Donc si vous l'avez lu, vous avez pu remarquer, donc on a un article qui est structuré en un certain nombre de temps, donc que je vais juste déjà recenser pour vous permettre de l'avoir en tête. Donc on a un premier temps qui est un encart étymologique. Donc ça, c'est caractéristique évidemment du type d'article qu'on trouve dans ce volume, le vocabulaire des philosophies européennes, puisqu'il y a cet ancrage dans la langue, comme je vous disais, donc il y a une sémantique qui sert de support et de réflexion, et qui donc signe l'originalité de ce volume. Donc on a d'abord un encart, ensuite une sorte de petit résumé de présentation de la notion, qui est en italique, et puis ensuite on a un certain nombre de temps qui structure l'article, et donc qui correspond en fait à... Alors dans l'article lui-même, Jérôme Dokic a indiqué 5 moments. Pour ma part, il me semble qu'on pourrait le rassembler en 4 temps. D'une part, un premier temps qui est comme une sorte d'introduction, qui s'intitule « La texture ouverte du terme de représentation ». Donc l'adjectif « ouvert », je vais y revenir parce qu'il résonne aussi avec ce qu'on avait déjà vu ensemble pendant le cours. Ensuite, on a un deuxième temps qui est placé sous le signe de la référence à Emmanuel Kant, donc philosophe du 18e, comme vous savez, et qui donc donne un ancrage l'ancrage de l'article dans un jalon important de l'histoire de la philosophie. Ensuite, on a un troisième temps qui est, à mon sens, le corps de l'article en réalité, qui correspond donc dans l'article à 2 moments qui sont placés sous le signe de la référence à Frege, à Gottlieb Frege, donc la conception frégéenne de la représentation. Donc ça, c'est vraiment le noyau dur en fait de l'article, et ça signe également en réalité le point d'ancrage philosophique de Jérôme Dokic. C'est-à-dire, c'est à partir de Frege en fait qu'il lit grosso modo, qu'il explore, qu'il examine la question de la représentation. Donc Frege qui est, comme vous le savez, j'imagine que vous avez déjà eu certains cours avec M. Varenne sur cet auteur, qui est en fait un de ceux qu'on considère être à l'origine en fait de ce courant de la philosophie de l'esprit. Et avec une référence majeure à des questions logiques et ontologiques, et aussi épistémologiques. Et puis enfin, on a un quatrième temps, qui est le temps conclusif de l'article, qui déploie des approches plus contemporaines sur la question de la représentation, et notamment des approches qui vont être des approches critiques à l'égard de la thématique de Frege, de la façon dont Frege pense la représentation, et notamment, je vais y revenir, donc qui met un peu en tension la notion même de représentation interne, ce qui est nommé dans l'article la représentation interne, et ce qui correspond en fait dans le volume qu'on a édité avec Raphaël Künzler à ce qui est nommé représentation mentale. Donc on verra, c'est pour ça que c'est très intéressant cet article, parce que justement il permet de mettre en relation justement le volume qu'on a édité et la mise en question, en tout cas le questionnement de la notion même de représentation mentale. Alors ce qu'on peut noter aussi, c'est que, comme je vous le disais en introduction, Jérôme Dokic n'est pas du tout fermé à la phénoménologie, loin de là. Dans la bibliographie, si vous regardez à la fin de l'article, vous trouvez un certain nombre de références à des textes de Husserl d'ailleurs, notamment « Chose et espace », donc qui est un texte sur la perception spatiale, un texte assez des années 1910 et suivants, un peu plus tôt, même en fait, en réalité 1907-1908. Et puis aussi un texte plus tardif qui s'intitule « Expérience et jugement »,« Erfahrung Urteil », qui est un texte tardif qui en fait décrit une sorte de généalogie de la logique, donc la façon dont les actes logiques, les actes de pensée, et pas seulement, s'enracinent dans une dimension qui n'est pas nécessairement linguistique, mais qui se réfère à l'expérience, ce que Husserl appelle des jugements anté-prédicatifs, donc antérieurs à l'acte même de prédiquer, donc de dénoncer en langage ou dénoncer logiquement. Donc, référence à l'expérience, Et donc, Husserl, dans Expérience et Jugement, procède à cette sorte de généalogie, essaye de montrer comment, en fait, le langage lui-même procède de l'expérience. Donc c'est intéressant que Jérôme de Quick se réfère notamment à ce texte, parce que ça montre qu'il est soucieux finalement de relier le langage et l'expérience, qui n'est pas dans une perspective purement linguistique, hein, on n'est pas dans le tournant linguistique de la... Voilà, comme le premier tournant finalement de la philosophie analytique, la philosophie de l'esprit, donc est un tournant plus ouvert, en tout cas qui inclut l'esprit, en l'occurrence ici même pour Jérôme de Quick, la référence à l'expérience. Et on peut aussi noter, en fait, j'y reviendrai en fin de séquence de cours, que dans la bibliographie, on trouve aussi des références à John Searle. Peut-être vous avez aussi entendu parler de lui, donc, qui est un auteur assez synthétique, en fait, hein, qui rassemble également, qui réunit la phénoménologie et la philosophie de l'esprit, même si c'est sous le fil de la philosophie de l'esprit, donc dans un texte assez connu qui s'appelle « Intentionnalité », hein, qui a été traduit en français très peu de temps après la parution, donc en 1983. 1982, c'est le titre original, « Intentionality », et 1983, la traduction française. Donc c'est un auteur sur lequel je reviendrai, mais c'est intéressant qu'il soit aussi présent dans la bibliographie, et notamment très discuté dans la dernière partie de l'article. Et puis il y a aussi une autre autrice, en fait, Elisabeth Pachery, dont on a un article qui est mentionné donc, dans la bibliographie de l'article, qui est aussi quelqu'un qui s'attache à faire droit à une approche de l'intentionnalité perceptive. Dans l'article, il est question de la Leibhaftigkeit de l'objet. Donc le terme Leibhaftigkeit, c'est un terme husserlien, hein, la présence en chair et en os de l'objet. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une connexion avec la phénoménologie qui est tout à fait visible, assumée et identifiée. Alors voilà, ça c'est pour la présentation générale de ce texte. Maintenant, je vais rentrer dans le corps de l'article pour essayer de commenter un peu ce document et vous ouvrir des perspectives, vous permettre donc de vous y frayer un chemin. Peut-être une petite remarque pour commencer sur l'encart étymologique, donc sur l'encadré que vous avez au début. Parmi les notions qui sont mentionnées, donc les références à certaines langues, hein, on a le latin, représentatio, l'allemand, Vorstellung, Repräsentierung et Vertretung, et puis l'anglais, Representation et Idea. Donc on verra que ces trois langues sont sollicitées dans l'article, et qu'au premier chef, le latin n'est pas forcément très mis en avant dans le texte, mais par contre, évidemment, on verra que l'allemand, donc on peut noter le choix que fait Jérôme de Quick d'une triade, hein, et principalement on verra quand même plutôt Vorstellung, Vertretung, donc on verra la sémantique de ces deux termes qui n'est pas la même et qui est très importante notamment chez Frege, hein, et donc c'est sans doute la raison pour laquelle il a aussi mis en avant ces deux termes, c'est qu'ils sont centraux et ils définissent la complexité de la position de Frege. Donc il y a évidemment une sorte d'orientation dans la façon de présenter les choses dans cet article, mais toute présentation est une interprétation, comme on le sait. Donc évidemment, c'est intéressant de l'identifier. Et puis on verra aussi que les deux termes anglais, representation et idea, eh bien ils sont aussi mentionnés par Jérôme de Quick parce que précisément il y a eu un certain nombre de tentatives de traduction de Vorstellung par idea, de traducteurs anglais de Frege, et donc c'est aussi la raison pour laquelle Jérôme de Quick a mentionné ce double choix. Voilà, donc ça c'est pour l'encadré de départ. Ensuite, maintenant je vais passer en revue, si vous voulez, de façon assez linéaire en réalité, les différents temps de cet article, de façon à voilà, vous proposer une sorte de lecture interne, enfin avec des perspectives où je vais ajouter un certain nombre de choses. Donc la première partie de l'article, donc, qui s'intitule « La texture ouverte du terme de représentation », le terme, l'adjectif ouverte, je voulais y faire droit aussi pour commencer parce qu'il y répond d'une certaine façon à ce que dans le cours, premier semestre, on a appelé la dimension transversale de la représentation, c'est-à-dire le fait qu'on a affaire à un terme qui n'est pas forcément d'emblée déterminé, mais qui, en fonction des approches qu'on va ménager, eh bien, va pouvoir recevoir différents contenus, donc est une sorte de notion assez souple, assez flexible, qu'on pourrait aussi considérer comme un peu un slippery concept, c'est-à-dire un terme un peu glissant, parce qu'en fait, on peut être très gêné pour le caractériser de manière univoque. Donc évidemment, ça fait partie de la complexité de la notion, une sorte d'équivocité, si on veut le nommer négativement. Ici, c'est nommé de manière plutôt positive, hein, la notion, donc la texture ouverte, le terme texture, ça indique bien aussi qu'on a affaire à une sorte de ramification, donc quelque chose, une sorte d'arborescence. Donc c'est plutôt positif. Et comme l'adjectif transversal, je pense que j'avais de mon côté utilisé. Alors dans ce premier temps, en fait, Jérôme de Quick va définir deux orientations de la sémantique même de la notion. D'une part, ce qu'il appelle donc dans le petit a, enfin dans le grand a, représentation, une relation, une action, un véhicule, point d'interrogation. Donc là, dans ce premier temps, il interroge la dimension ontologique de la représentation. Donc quel est son être ou quel est son mode d'être? Et puis ensuite, dans le deuxième temps, petit b, donc le sens du re dans représentation, à la page suivante, eh bien, il pose la question, ou il revient sur un point central qu'on a déjà vu au premier semestre, donc la question de la médiation ou de la dimension indirecte que pose le préfixe re. Donc c'est assez classique, mais ça permet de synthétiser en fait assez bien les choses qu'on a déjà vues et puis peut-être de les reconfigurer, de les reformuler un peu différemment. Donc je passe assez rapidement en revue donc ce qu'il indique dans ces deux temps. Donc dans A, ce qu'on voit ressortir, c'est une dimension ontologique de la représentation qu'il décline en trois modalités que je trouve assez intéressantes. C'est assez bien synthétisé en fait sous les trois notions donc de relation, action et véhicule. Donc la notion de relation, il la détermine comme étant la référence A, c'est-à-dire qu'en fait la représentation a pour statut d'être une relation, donc de se référer à un objet, à quelque chose d'extérieur. Et là, il met en relation finalement cette notion de référence A avec Franz Brentano, donc avec un auteur qui a été, un psychologue qui a été très important pour Husserl, qui a forgé le terme intentionnalité, qui a aussi été important pour le Frege et la philosophie de l'esprit, donc qui est un peu le maître charnière, enfin la matrice en réalité de ces deux courants philosophiques. Donc la première détermination de la représentation, eh bien, pour Jérôme de Quick, c'est cette notion de relation de référence A, hein, donc d'intentionnalité. La deuxième dimension, le mode d'être de la représentation, c'est ce qu'il nomme l'action. Et à ce moment-là, il va le relier finalement au verbe même, donc plutôt qu'au substantif, représentation, il va le relier au verbe se représenter. Donc du coup, il fait de cette action une action qui est une action d'un sujet, à travers le seul, le réflexif. Donc c'est une action qui met en scène plutôt la référence finalement au sujet cette fois, à celui ou celle qui se représente, plutôt que la référence à l'objet. Et enfin, donc le troisième mode d'être de la représentation qu'il choisit de privilégier, eh bien, il le nomme sous le terme de véhicule. Et là, en fait, il désigne à partir de cela quelque chose qui est le résultat de l'action, le résultat de l'acte. C'est-à-dire le fait qu'une représentation, eh bien, peut être un support en soi, peut être une entité en tant que telle. Donc, par exemple, une représentation sera un tableau, hein, ce sera une représentation. Ou bien la façon dont enfin ma représentation du monde, hein, eh bien, ce sera une entité en soi, un support en tant que tel, un résultat de l'acte. Donc, ce n'est pas le processus qui est en jeu, ce n'est pas le se représenter, mais c'est le résultat. Donc, on en a un peu parlé dans le cours au premier semestre, hein, quand on a décliné finalement à notre façon, d'une autre manière, sous la forme de cette petite expérience en première personne. J'avais mis en perspective finalement ces trois dimensions, mais là, c'est resynthétisé de manière plus formelle, disons, et c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a le deuxième temps, le B, donc qui est placé sous le signe de cette relation au préfixe re, représentation, et qui met en avant un deuxième aspect, disons, de la définition de la représentation, avec donc le problème de la médiation nécessaire, apparemment, qui est lié à ce terme. Et donc l'idée principale de ce deuxième petit paragraphe, hein, c'est d'insister sur le fait que pour qu'il y ait représentation, eh bien, il faut une présentation. La présentation, c'est la condition de la représentation. Et cette condition, elle peut être, comme il le dit, soit temporelle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait eu présentation. Donc ça, c'est temporel au sens où il y a d'abord dans le temps une antériorité de la présentation. Ou alors, elle peut être aussi simplement logique. Hein, c'est-à-dire, c'est une condition de possibilité, un peu à la façon de Kant. Mais elle n'a pas besoin d'avoir un ancrage, une genèse, une généalogie dans l'expérience d'un sujet. Donc il décline les deux possibilités, sans forcément d'ailleurs trancher. Donc c'est assez ramassé, c'est peut-être un peu court en fait comme temps, notamment dans la mesure où ce qu'il faudrait nous ajouter pour vraiment faire droit vraiment à cette dimension, faudrait ajouter tout ce qu'on a mis en avant sous la notion de ressemblance, le problème de la ressemblance entre la présentation et la représentation, à travers donc la référence à Descartes, notamment dans les textes sur la dioptrique. Mais aussi la question de la mimésis, hein, donc positive, négative, chez Platon, Aristote, plus largement le problème de l'esthétique, hein, ou le problème du politique, donc comment quand on représente, ça suppose qu'il y a une présence, et les représentants représentent quelqu'un, enfin voilà, donc en fait ça peut se décliner de toutes sortes de façons. Et là, c'est dit de manière un peu formelle, je pense qu'il y a plein de contenus qui pourraient être insérés là et qu'on a largement exploré au premier semestre. Donc voilà, ça c'est la partie introductive de l'article. Et à partir de là, en fait, donc on va avoir un deuxième temps qui est un temps kantien, hein, le paradigme kantien, Vorstellung, Repräsentierung, Vertretung. Donc c'est la façon qu'a Jérôme Dockick de s'inscrire dans l'histoire de la philosophie en prenant Kant comme une sorte de moment paradigmatique, comme il le dit, le paradigme kantien, donc un moment déterminant pour finalement asseoir, cristalliser cette notion de représentation. En fait, il indique dès le départ, et ça c'est plutôt bien, bien, bien vu, que finalement cette notion de représentation, eh bien, selon lui, en tout cas, elle entre en philosophie avec Kant. Donc c'est Kant qui fait un travail à la fois terminologique et définitionnel majeur pour cette notion de représentation. Alors on pourrait contester cela en disant qu'en fait on a déjà beaucoup de choses chez Descartes. Et chez Leibniz, par exemple, dont il ne parle pas, hein, notamment dans ce petit texte dont je vous recommande vraiment la lecture, qui s'appelle Qu'est-ce qu'une idée? Qui est vraiment exemplaire, et autour de la notion d'aperception, notamment, de prise de conscience. Mais bon, toujours est-il que pour Jérôme Dockick, et aussi dans la mesure où Kant lui sert de point d'ancrage pour ensuite explorer la filiation avec Frege, donc c'est toujours dans cette même orientation. Donc c'est aussi la raison pour laquelle Kant lui apparaît comme étant vraiment un auteur majeur qui signe l'entrée en philosophie de cette notion de représentation. Ce qui est de toute façon très, très, très juste, très pertinent. Et donc c'est à travers la notion de Vorstellung, essentiellement, que ce terme entre en philosophie. La notion de représentation entre en philosophie. Alors on voit que dans ce paragraphe, ce deuxième temps, on a trois notions, Vorstellung, Repräsentierung et Vertretung. Mais on va voir en fait que c'est quand même à travers le terme Vorstellung, il y a quand même une majeure dans ces trois termes, c'est le terme Vorstellung qui est mis en avant par Kant, avec donc sa détermination très concrète en même temps de mettre devant, placer devant. Et d'une certaine manière, là, il y a peut-être un petit flottement dans l'article, dans le passage, dans la mesure où Jérôme Dockick, disons, oscille entre Vorstellung et Vertretung dès le départ, finalement, en indiquant qu'en réalité, on est, bon, Vorstellung, c'est mettre devant, Vertretung, c'est mettre à la place de, remplacer, donc il y a un rapport commun à la place, au placement. Et il a tendance un peu à identifier les deux. En tout cas, il ne différencie pas vraiment les deux, alors qu'en réalité, faire Vertretung, c'est vraiment se substituer à, remplacer. Et donc, ça a évidemment un sens beaucoup plus déterminé que le terme Vorstellung, qui est juste neutre, en fait, qui dit juste on met devant, on met quelque chose devant. Donc, ce n'est pas les mêmes déterminations spatiales qui sont en jeu dans les deux termes. Alors on pourrait ensuite approfondir un tout petit peu ce que dit Jérôme de Quicq. Il se réfère à la critique de la raison pure, donc ça on l'avait déjà vu ensemble au premier semestre. Finalement il va essentiellement marquer une distinction qui est une distinction majeure chez Kant, c'est vrai, entre la représentation intuitive et la représentation conceptuelle. Donc ça se trouve à peu près au milieu de ce passage, hein, donc à la page 1072. On peut se référer, on l'a fait largement au premier semestre, à toute l'arborescence que dessine Kant, notamment à la fin de la méthodologie, hein, dans la critique de la raison pure. Bon, là, ici, c'est un peu ramassé, donc on a essentiellement cette distinction. Et en fait, on voit qu'en réalité, ce qui intéresse Jérôme de Quicq, c'est de mettre en perspective la position de Kant, pour montrer en quoi, en fait, comment dire, cette notion de Vorstellung, eh bien, annonce, en réalité, à la fois Brentano et Husserl, d'une part, et Frege, d'autre part. Donc on a là encore une lecture un peu téléologique, hein, c'est-à-dire orientée, en direction donc de l'auteur qui l'intéresse essentiellement, à savoir Frege, donc qui a tendance à relire Kant à la lumière finalement d'un paradigme global qui est celui de l'intentionnalité. Donc placé sous le signe de cette référence à la fois à Husserl et à Frege, et on va voir ensuite les choix que fait Jérôme de Quicq dans cette alternative. Mais en tout cas, situant Kant dans cette notion de représentation, le situant comme étant un auteur qui a pour la première fois mis en avant justement la référence à l'objet, la référence du sujet à l'objet, à travers que ce soit l'intuition ou le concept, mais la référence à l'objet, donc la référence de l'acte à un résultat qui est l'objet. Donc là aussi, il y a un point qui est laissé de côté dans la référence à Kant qui serait intéressant à adjoindre, qu'on avait vu au premier semestre, qui est la référence à la faculté de juger, la critique de la faculté de juger, et donc la conception kantienne du symbole, hein, et donc sa capacité justement à situer finalement le symbole dans la problématique de l'analogie, donc quelque chose qui est une ressemblance, mais pas une ressemblance mimétique, mais une ressemblance qui pose la relation entre les termes comme étant primordiale par rapport à des termes qui peuvent être hétérogènes. Donc toute cette problématique, elle n'est pas du tout explorée par Jérôme de Quicq ici. Donc on voit là aussi les choix qui sont faits par cet auteur, hein, évidemment, c'est aussi une façon de situer, de mieux comprendre en fait sa propre perspective. Alors j'en viens maintenant au corps du texte, en fait au gros du texte, et donc à ce qui est nommé donc dans l'article le point 3 et le point 4. Donc le point 3, donc intitulé le détournement Frege 1 de la Vorstellung, et le point 4 intitulé Frege et les paradoxes de la Vertretung. Donc là vous voyez qu'en fait Jérôme de Quicq va orchestrer son propos sur Frege à travers ces deux notions, Vorstellung, Vertretung. Ce qui est sans doute l'originalité de cet article, ça on ne l'avait pas vraiment vu ensemble, donc c'est une bonne façon d'entrer autrement dans la notion de représentation à travers cette bifurcation, qui, on va le voir chez Frege, est complexe en réalité. Donc là, les deux points que met en avant Jérôme de Quicq sont des points critiques. Puisque finalement, dans le premier temps, on a une exploration de la filiation kantienne de Frege, mais en même temps, la manière dont il le dit, donc clairement ici, Frege détourne la conception kantienne à son profit. Donc on a une approche critique qui est intéressante. Et puis le deuxième temps, lui aussi, est critique, puisqu'il est question des paradoxes, hein, de la Vertretung, donc quelque chose qui pose un problème, hein, qui n'est pas véritablement complètement univoque, en tout cas qui pose des questions. Donc là, on voit que le propos de Jérôme de Quicq est beaucoup plus dans l'argumentation, dans la prise de distance, dans l'interrogation, hein, que les deux premiers temps. Et on sent bien que c'est vraiment cet auteur qui lui tient à cœur et avec lequel il travaille. Alors si je reprends maintenant ces deux temps, hein, on a donc, en fait, Jérôme de Quicq, dans un premier temps, présente quand même assez clairement justement la position de Frege, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Il nous fait une sorte de résumé, de synthèse de la conception frégéenne de la Vorstellung. Donc du coup, il insiste dans ce premier temps sur la manière dont Frege pense la Vorstellung de façon très large, très ouverte. À travers donc ce qu'il nomme, ce que Frege nomme des mondes, qui sont en fait des ontologies, hein, des manières d'être, des êtres. Et ces trois mondes ou ces trois ontologies en fait se déclinent selon trois dimensions, qui sont d'une part les états internes, les entités naturelles objectives et les pensées. Alors c'est une organisation qui est vraiment propre à Frege et qu'on pourrait évidemment avec d'autres auteurs juger pas forcément évidente, enfin en tout cas pas n'allant pas forcément de soi. En tout cas avec un filtre phénoménologique, on pourrait se demander pourquoi mettre de côté, distinguer les états internes et les pensées, dans la mesure où en phénoménologie on dirait ce sont des vécus dans les deux cas. Mais voilà, la manière qu'a Frege de penser les distinctions évidemment est différente. Et donc, ce qui correspond aux états internes, c'est décliné de manière assez précise là dans l'article, ce sont les impressions, les sentiments, les imaginations, les émotions, les affects, les sensations. Donc, ça, ce sont des états internes. C'est ce qu'en phénoménologie on appellerait au sens strict des vécus, c'est-à-dire des dimensions de l'expérience du sujet indépendamment d'une référence à l'objet. Ensuite, on a donc un deuxième monde ou un deuxième être de la représentation qui correspond à ce que Frege appelle les entités naturelles ou objectives. Donc là, ça correspond à l'objet, en fait, hein, à la dimension externe, finalement, de la représentation, c'est-à-dire en réalité à ce que, plutôt, dans l'article, il appelait un support en soi, c'est-à-dire le fait que une image, une représentation picturale, ma représentation du monde, par exemple, eh bien, elle va être prise pour objet, c'est un objet en tant que tel. Donc ça c'est le deuxième être, le deuxième mode d'être, le deuxième monde qui correspond donc au sens de la représentation. Et un troisième sens, un troisième être, un troisième monde, eh bien, ce sont les pensées que Frege singularise en réalité par rapport aux états internes en considérant qu'en fait les pensées sont directement reliées à un sens, à une signification, donc à quelque chose qui relève du langage. Alors ça, ça caractérise vraiment la pensée de Frege par rapport à la phénoménologie, si je le prends un peu en référence toujours, évidemment, parce que c'est aussi mon arrière-plan et ma propre orientation, en fin de compte. C'est vrai que la phénoménologie ne met pas en avant justement une référence au langage qui articulerait la relation à la pensée de façon interne. Donc là, on a quelque chose qui est propre à Frege et propre aussi à ce qui sera la philosophie analytique et la philosophie de l'esprit. Donc en ce sens, les pensées sont vraiment distinguées des états internes, qui ne sont que des vécus sans mise en relation langagière. Alors c'est en ce sens, en fait, que le terme « représentation » en anglais, dans certaines traductions américaines, va être plutôt traduit par « ideas », « Vorstellung » va être traduit par « ideas », par « idea », et pas par « representation », de façon à mettre en évidence justement cette relation interne, cette relation alors à la pensée, aux états internes, donc plutôt que d'insister sur le « re » de la représentation. Et en fait, la question que pose la position de Frege et que mentionne aussi Jérôme de Quick, eh bien c'est le problème majeur, le problème central de la référence à l'objet dans la représentation, et le fait qu'elle ne soit pas nécessairement inclue, cette référence à l'objet, dans la notion même de Vorstellung. Puisque dans deux des trois mondes, finalement, que ce soit les états internes ou les pensées, on a une dimension de la représentation qui n'inclut pas la référence à l'objet. Et là, en fait, Jérôme de Quick va mettre à profit un terme, donc, qui est le terme brentanien initial et aussi phénoménologique d'intentionnalité, précisément pour interroger cette référence à l'objet et pour contraster finalement la conception frégéenne par rapport au schème de l'intentionnalité qui, quant à lui, pose de façon interne à la représentation la référence à l'objet. Donc, l'intentionnalité, que ce soit chez Brentano ou chez Husserl, inclut la référence à l'objet. la définition de la conscience, la définition majeure de la conscience chez Husserl dans les méditations cartésiennes, au paragraphe 14, toute conscience est conscience de quelque chose. Hein, la conscience n'est pas quelque chose une sphère close sur elle-même, réflexive ou caractérisée par l'intériorité. Elle implique l'ouverture au monde, elle implique la référence à autre chose qu'elle, en l'occurrence à l'objet. Donc, vous voyez, la position de Frege, eh bien, est une position qui interroge cette relation à l'objet et qui, finalement, va définir de manière majeure la représentation comme étant une représentation, justement, mentale ou interne. Ici, les deux adjectifs sont synonymes. Parce que, justement, aussi bien les états internes que les pensées n'impliquent pas la référence à l'objet. Donc, une conception de la représentation comme non nécessairement référée à un objet. Et ceci s'oppose évidemment frontalement à une approche phénoménologique qui désigne la représentation comme intentionnalité, donc comme un acte, une ouverture sur le monde et sur les objets. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique de la manière dont Frege pense les choses. C'est vraiment intéressant. Je pense que vous pouvez vous référer à un certain nombre de termes, de textes qui sont indiqués ici par Jérôme Dokic, par exemple le texte de 1918 Der Gedanke, hein, la pensée. Où on voit justement cette déclinaison des différentes dimensions ontologiques. Et puis, donc, ensuite, on a un deuxième temps où, en fait, Jérôme Dokic va différencier cette conception de la Vorstellung de la Vertretung. Et là, il va prendre position par rapport à Kant, en considérant qu'en fait, chez Kant, on a finalement une confusion, en tout cas une non-distinction entre ces deux notions. Qu'il a un petit peu donc élaboré en amont dans son article. Et il va, grosso modo, là je vais synthétiser un petit peu les choses, il va définir en fait l'affaire Tretung, donc ça c'est vraiment sa définition de l'affaire Tretung, c'est son, là aussi sa signature propre. Il va donc définir l'affaire Tretung, en faire un concept, son concept à lui, comme une relation d'abord logique. Il va considérer que Vertreten instaure une relation logique entre deux notions, entre deux termes, alors que Vorstellung instaure une relation psychologique entre deux termes. Donc Vorstellung, eh bien, c'est une relation qui, comme on l'a vu, part des états internes du sujet, soit pour se relier avec des entités naturelles objectives dans un des cas de figure, soit pour se relier au langage, enfin pour être relié directement au langage dans le cas des pensées, soit pour être pensé en tant que tel dans les états internes. Donc ça c'est Vorstellung, c'est la relation qu'il nomme lui-même simplement psychologique. Et de cela, il distingue donc le terme Vertretung, et le concept de Vertretung va se situer quant à lui seulement... essentiellement sur un plan logique, donc en termes de relations logiques. Et en fait, il met en relation cette dimension donc logique avec un sens initial qui est un sens juridique. C'est ce qu'on trouve en bas de la page 1073. Et il se réfère ici à Philippe de Rouillan, donc un auteur contemporain qui parle lui-même des paradoxes de la représentation. Même si Vertreten a été traduit par représenter, il faut garder à l'esprit la distinction rigoureuse que Frege établit entre Vertreten et Vorstellen. Frege utilise principalement le verbe Vertreten qui désigne une relation purement logique, ne devant rien au monde psychologique. Et en amont, justement, il a fait le lien avec un sens plus juridique de agir par procuration, donc être en relation avec un autre, avec une entité, donc un représentant qui est pensé comme une entité formelle, d'où cette dimension logique, et donc être là finalement en substitut d'un terme pour un autre. Donc on est vraiment dans une dimension que plus loin dans l'article, d'ailleurs, il va exemplifier à l'aide de la relation entre le concept et l'objet, mais ça pourrait aussi s'exemplifier à travers la relation entre le concept et le mot. Donc on pourrait dire qu'on a une relation logique entre un mot qui sert de point de départ, et à partir de là, on a son représentant, le concept, en fait, qui agit au nom du mot, donc, ou qui a une action au nom du mot, par procuration avec le mot. Ça peut jouer d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, ça pourrait être aussi le mot qui représente le concept, d'une certaine façon, dans un cadre purement linguistique ou sémantique. Alors là, en fait, Jérôme de Quick est assez elliptique, mais on pourrait étoffer nous-mêmes ce point en insérant ici, par exemple, si on a en tête cette référence juridique ou le fait d'agir au nom d'eux, hein, d'agir par procuration, on pourrait ici, évidemment, je pense que vous l'avez à l'esprit là, quand j'énonce cela, on pourrait insérer ici la référence à Hobbes. Et montrer que justement à travers cet acte de to personate qu'on a vu au premier semestre, agir au nom de, eh bien on a cet arrière-plan juridique, très formel d'ailleurs aussi chez Hobbes, donc ça consonne assez bien avec la conception logique formelle ici que met en avant Dokic via Frege. On aurait ici un arrière-plan tout à fait intéressant à mettre à profit pour peut-être nourrir davantage en réalité la dimension relève Frege pour désigner justement, pour caractériser l'affaire Tretung. Et donc justement pour exemplifier ce propos, Dokic se réfère donc à un texte de Frege de 1892 qui s'intitule justement Concept et objet, et qui permet précisément de faire la différence et en même temps de montrer la relation entre le concept et l'objet. Le concept étant, là dans l'article en l'occurrence, étant le représentant de l'objet, le fair traiter. Et il prend l'exemple du terme cheval et surtout de la chose, hein, en l'occurrence ici c'est l'objet, c'est la chose cheval, l'animal, qui va être représenté par le concept de cheval, donc un terme générique. Dans la scolastique médiévale, on a justement un exemple de ce type, il est question de la cabaléité, donc une entité générale, une entité générique qui rassemble en fait toutes les choses singulières, tous les chevaux existants singuliers. Donc on a déjà en fait ce genre de conceptualisation, elle est déjà disponible au Moyen-Âge, dans un certain nombre de textes de scolastique médiévale, ou même déjà en amont chez Aristote d'une autre façon. Mais là en l'occurrence finalement, ça permet à Frege de penser justement le concept de faire traitung, hein, donc le faire traiteur étant le concept qui universalise, qui généralise, qui permet d'avoir une sorte d'entité générale, qui permet de penser en réalité tous les objets singuliers. Et c'est le sens que Frege accorde à cette notion de faire traitung. C'est assez intéressant, c'est original. Je pense que ça permet d'avoir une notion de représentation un peu différente de celle qu'on a pour l'instant explorée. Donc voilà, ça c'est pour vraiment les deux versants de la conception frégéenne de la représentation. Et puis maintenant, je voudrais en venir pour terminer, on a encore un petit quart d'heure là en l'occurrence, je voudrais en venir à la dernière partie de l'article, donc qui s'intitule « Présentation, représentation et représentation mentale ». Et qui, comme je vous le disais à l'orée de cet audio, qui correspond à une partie un peu plus critique par rapport à la notion même de représentation interne ou représentation mentale, donc les deux adjectifs étant ici synonymes. Cette notion de représentation interne ou mentale, vous l'aurez compris, étant largement issue en fait de la pensée de Frege. Alors c'est évidemment très intéressant pour nous, puisque on peut le mettre en perspective du volume donc, dont certains et certaines d'entre vous vont explorer les articles. Et comme ce volume est justement placé sous le signe de cette enquête sur les représentations mentales, vous voyez qu'ici, on a un peu, ça nous permet d'avoir une sorte de généalogie de l'approche de cette notion et comment ensuite elle a été mise en scène, débattue, critiquée, reprise, enfin comment les concevoir, comment s'en passer dans le débat contemporain. Donc je pense que ça vous donne une sorte d'ancrage de la position à travers la position de Frege, que peut-être vous aviez déjà un peu en tête, mais en tout cas qui sera plus présente et peut-être plus identifiée pour vous maintenant. Donc une sorte d'ancrage, de socle de ce débat contemporain. Donc ce que fait ici Jérôme Dokic dans cette dernière partie, c'est de nous proposer, de manière évidemment très rapide, trop rapide sans doute, mais bon, c'est un article seulement, nous proposer en fait trois critiques différentes de cette notion de représentation mentale ou interne, issue de Frege. Donc une première critique qui correspond au premier paragraphe de ce dernier temps, qui est la critique phénoménologique justement de cette notion de représentation mentale. Alors ça c'est vraiment intéressant qu'il y fasse droit, parce que voilà, il aurait pu ne pas le mentionner, étant et dans pas dans cette orientation de pensée. Mais bon, il y fait droit. Et donc, il se réfère essentiellement pour y faire droit à un texte de Husserl que j'évoquais au tout début, qui s'intitule Choses et espaces, donc qui est un texte qui est une analyse de la perception spatiale, qui date donc de 1908, et qui met en scène justement la distinction entre présentation et représentation, la présentation étant de manière paradigmatique l'acte perceptif, hein, l'acte qui me donne l'objet en chair et en os. Donc l'objet m'est présenté, et le sujet a une relation directe avec l'objet par la perception. Et puis, à côté de cela, on a la représentation qui est en fait correspond aux différents actes qui sont fondés sur la perception. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues, qui peuvent être le souvenir, l'imagination. Il n'y a pas de souvenir et d'imagination sans perception. Donc la perception, c'est la condition, alors chez Husserl, plus expérientielle que logique, mais aussi logique, évidemment, aussi temporelle. Mais enfin, c'est global et c'est quand même une relation d'expérience. Hein, c'est le sujet qui, ayant perçu, eh bien, peut avoir des souvenirs ou imaginer. Hein, donc on est dans cette conditionnalité expérientielle. Donc il restitue de manière assez rapide, finalement, cette distinction. Il montre que c'est sous le signe de l'intentionnalité que cette distinction se pense. Mais après, c'est vrai que ça reste un petit peu elliptique, dans la mesure où il développe peu ce point. Et en fait, il parle de représentation, alors qu'en réalité, Husserl, on l'a vu, parle de présentification. Donc, à une approche beaucoup plus dynamique, en fait, que structurelle seulement, de l'acte même de se représenter. Et montre mieux, en fait, je pense que Husserl montre mieux qu'on le trouve ici dans ce passage, que c'est vraiment la présence à l'objet, donc la présentation à l'objet, qui orchestre la représentation comme présentification. Donc il faudrait, dans ce passage-là, sans doute insister sur la dimension dynamique de l'intentionnalité, ce que fait peut-être pas assez ici Jérôme Dokic. Et là, je me permets de vous renvoyer pour cela à mon article dans le volume Enquête sur les représentations mentales, et aussi à l'article de Claudia Serban sur Merleau-Ponty. Pour cela, il faudrait aussi ajouter donc la référence à un certain nombre d'articles des idées directrices 1 de 1913, donc ce texte de Husserl, où on a une description beaucoup plus étagée et précise de la relation entre présentation et présentification. Bon, en tout cas, il y a quand même un premier versant critique, dans la mesure où c'est intéressant que Jérôme Dokic mentionne, signale cette critique phénoménologique de la représentation interne en insistant sur le fait que via l'intentionnalité, c'est ce que je disais plus haut, via l'intentionnalité, évidemment, on a un acte qui ouvre le sujet au monde et qui finalement montre les limites d'une représentation qui ne serait qu'interne, ce qui est la position majeure de Frege. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la suite de ce dernier temps de l'article, Jérôme Dokic va indiquer deux autres critiques de la notion de représentation interne ou mentale, qui sont des critiques internes aux sciences cognitives et internes à la philosophie de l'esprit. Donc ça, c'est intéressant de voir comment le débat évolue et comment il y a vraiment une sorte de voilà, d'effervescence et de mobilisation à l'intérieur même du champ des sciences cognitives et de la philosophie de l'esprit par rapport à cette notion de représentation mentale. Alors, ça, vous allez trouver aussi des éléments de ce genre dans l'article de Pascal Ludwig et dans l'article d'Arnaud de Walck, hein, qui justement sont dans ce genre d'interrogation. Donc, vous voyez que ça va converger avec des choses que vous avez peut-être déjà commencé à regarder de votre côté. Alors, la première critique qu'il mentionne, c'est une critique interne aux sciences cognitives, qui le fait remonter au début des années 80, et qui en fait prend appui sur la position du philosophe Fodor, hein, du philosophe Jerry Fodor, essentiellement dans cet ouvrage The Language of Thought, ou encore l'ouvrage Representations, donc ce sont des textes de 1975-1981, vous trouverez ça dans la bibliographie. Et donc il montre très rapidement comment en fait la position de Jerry Fodor est une position qui reste intellectualiste, c'est-à-dire qui enferme la représentation dans l'état interne, dans le psychisme interne du sujet. Donc position intellectualiste que un certain nombre d'auteurs justement vont critiquer, Vont mettre en comment dire, vont souligner la limite finalement d'une conception seulement représentationnelle de la représentation et promouvoir à sa place une extension qui est une ouverture sur la dimension pratique de la représentation. Ces théories, elles vont alors être nommées des théories non représentationnelles de la représentation. Alors, ça peut sembler un peu contradictoire, un peu curieux de formuler cela comme cela, dans la mesure où on peut se dire, mais en fait, si c'est non représentationnel, pourquoi parler encore de représentation ? Si on est dans une dimension pratique et d'action, voilà, pourquoi dire qu'elles sont non représentationnelles ? Ça reste une représentation, même si elle est justement pensée dans sa dimension performative. C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer dans mon article. Et en tout cas, effectivement, Jérôme de Kick mentionne donc des perspectives qui, dans les années 80, vont mettre en évidence justement la nécessité de penser la représentation dans son interaction avec l'environnement, par exemple. Donc, ce sont ces notions qui ont été beaucoup développées dans les années 80-90 de cognition située ou de cognition incarnée ou embarquée, hein, situatedness, embeddedness, embodied. Alors, il cite une référence à un article de Smith, de Cantwell Smith de 1999. Bon. Les références ne sont pas forcément très très emblématiques, il me semble. Je pense que sur cette question de la cognition incarnée ou située ou embedded, la référence principale, mais qui malheureusement ici n'est pas mentionnée, c'est la référence au travail de Francisco Varela, donc ce neurobiologiste chilien qui a écrit un ouvrage majeur sur la question qui s'intitule « The Embodied Mind » en 1989, donc on est vraiment dans les années fin des années 80. Et qui sera traduit ensuite très tôt en français en 1991 sous le titre L'inscription corporelle de l'esprit. Donc je pense que là, il y a vraiment un auteur à mobiliser pour penser justement cette critique interne de la représentation mentale dans le champ des sciences cognitives. Auteur auquel je me réfère aussi, je me permets de l'indiquer dans mon propre article, le volume Enquête sur les représentations mentales. Troisième perspective qui s'ouvre à partir de là concernant donc ce débat sur la notion de représentation mentale, donc qui apparaît à la fin de cet article, c'est la référence à un auteur que j'ai mentionné en amont. C'est donc un auteur extrêmement intéressant, donc John Searle. Je pense que vous avez eu l'occasion peut-être déjà d'en entendre parler dans les cours avec Monsieur Varenne, qui propose une synthèse, une sorte de synthèse du point de vue des sciences cognitives, du point de vue de la philosophie de l'esprit, entre phénoménologie et sciences cognitives. Donc vous voyez une sorte de synthèse alors qui est orientée, mais qui en même temps tente de tenir ensemble, hein, de faire droit à la phénoménologie du sein des sciences cognitives. Donc c'est un auteur aussi qui écrit dans les années 80. On a ce livre majeur donc, qui s'intitule Intentionality en 1983, qui va être traduit en français très vite en 1985 sous le même titre. Searle revendique explicitement un héritage husserlien et fait droit de manière majeure à la notion justement de présentation, donc en allemand chez Husserl, Gegenwärtigung, par distinction d'avec précisément la représentation. Faire Gegenwärtigung. Donc là, on est vraiment dans un contexte interne à la philosophie de Husserl, John Searle, pardon. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, John Searle va retourner la distinction husserlienne. C'est-à-dire qu'en réalité, il va considérer que la présentation, donc la dimension chez Husserl perceptive, hein, la perception comme étant vraiment le paradigme même de la présentation, c'est-à-dire de la présence en chair et en os de l'objet à ma conscience, eh bien il va considérer que la présentation, c'est une espèce de représentation. Donc c'est un cas particulier, si vous voulez, hein, l'espèce par rapport au genre, hein, donc chez Aristote, c'est un cas particulier des représentations. Donc en fait, dans son esprit, le terme, la représentation, c'est l'entité générique, c'est l'entité majeure. Et à l'intérieur de cette entité majeure, on a un certain nombre de cas de figure et d'espèces, dont l'un qui est la présentation, qui est une forme, dit-il, une forme directe de représentation. Alors là, on voit en fait l'héritage frégéen de la pensée de Searle. C'est-à-dire qu'on voit bien comment en fait Searle pense à travers le cadrage de Frege, donc pense à travers un un cadre qui est de manière majeure le cadre de la représentation, et il essaye d'y insérer quelque chose qui relève à plus proprement parler de la phénoménologie, donc d'une forme particulière de représentation que serait la présentation. Alors c'est très curieux parce qu'en réalité quand on a un regard phénoménologique, on se dit mais pourquoi c'est très bancal, c'est tordu, pourquoi inverser? C'est une façon curieuse d'inverser ce qui en phénoménologie est pensé exactement de manière inverse, puisque dans la perspective de Husserl, ce serait plutôt, si on voulait reprendre le schéma de Searle, ce serait plutôt la représentation ou la présentification qui serait une espèce de présentation. Ce serait plutôt la présentation qui serait la dimension générique dont les présentifications seraient les espèces. Voyez, ce serait plutôt la présentation, donc le paradigme perceptif, l'acte de perception, qui serait le cadre général et à l'intérieur duquel Husserl greffe par stratification un certain nombre d'actes qui viennent se situer par rapport à la présentation. Donc la présentification ne peut être que seconde, dérivée, pensée à partir de la présentation et pas l'inverse. Donc c'est intéressant de voir comment Searle utilise la référence à la phénoménologie pour la faire rentrer dans un cadre qui est un cadre non phénoménologique, à savoir le cadre frégéen. Mais en réalité, on crée une sorte de distorsion qui inverse même la priorité, hein, et qui donne à la représentation un rôle générique, ce qui n'est pas le cas du tout dans la phénoménologie de Husserl, et on comprend bien pourquoi, dans la mesure où ça ne peut être que depuis un acte de présentation, de perception, donc de relation directe à l'expérience, que se déploient finalement des actes de présentification, de représentation. Voilà, bon, j'espère qu'en fait cette audio vous sera utile, qu'elle vous permettra de vous faire un chemin un peu plus simple dans cet article, qui est évidemment plus dense que ce que j'en ai dit, mais où j'ai essayé de vous fournir une sorte de cheminement et puis mettre en relief un certain nombre de choses qui me semblent intéressantes, faire résonner aussi les différentes références qu'on a vues en cours au premier semestre et au début du second semestre. Voilà, faire déjà une sorte de travail de synthèse. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est sur la base de cette traversée, hein, j'espère peut-être que vous avez pris un certain nombre de notes, si ça vous a semblé intéressant. Vous pouvez évidemment le réécouter une deuxième fois, hein, enfin, c'est le but d'un audio. Peut-être c'était un peu rapide à certains moments, ou peut-être pas complètement clair. Hein, j'avais pas un cours rédigé, j'avais juste des notes sous les yeux, donc évidemment, parfois, je suis un peu comme dans une séance de cours orale. C'était un peu ça le but aussi, je voulais pas du tout vous lire un cours, ça n'a aucun intérêt. Donc il peut y avoir des petits flottements ou des choses qui ne sont pas assez claires. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de clarification, à m'envoyer un mail pour me demander des précisions. Si vous avez des questions, si ça vous inspire des réflexions. Et puis voilà, je vous souhaite bonne... j'espère que ça vous a intéressé, puisqu'on arrive à la fin de l'heure que vous avez maintenant écouté, du coup. On fera un petit retour là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour m'indiquer si ça vous a intéressé, est-ce que vous en avez retiré. Et puis demain, comme je vous le proposais, donc mercredi, je vous renverrai un petit message, de toute façon, pour vous proposer un petit travail. Donc rassurez-vous, ce ne sera pas très long, mais simplement un petit travail pour une sorte de contrôle de connaissances. Hein. Comme on est à distance, c'est un peu plus compliqué, je suis obligée de tenir un tout petit peu plus les choses avec vous. Donc ce sera un petit travail, un petit contrôle de connaissances rapide qui englobera les différents supports que je vous ai transmis depuis la semaine dernière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, après-midi. Voilà, pour moi c'est l'après-midi, début d'après-midi. Et puis je vous dis à très bientôt. Et au revoir.